Chers amis des cellules, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'évangile de dimanche prochain, l'évangile de la fête du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Nous aurons à cœur de tirer du baptême de Jésus des conséquences pour nous en matière de compassion et d'intercession. Mais lisons l'évangile. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Cet extrait du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Luc, les versets 15 à 22, avec une petite coupure, car il nous manque les versets 17, 18, 19, 20, ménage une surprise. En effet, Jean-Baptiste, lorsqu'il parle du Messie, parlait du Messie qui baptiserait dans l'Esprit Saint et le feu, mais n'avait pas évoqué le fait que le Messie devait être baptisé. Or, lorsque Jésus intervient, on va nous manifester, on va nous préciser que Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Et en fait, c'est une surprise, et c'est une surprise qui n'est pas sans conséquence. Jean-Baptiste attendait un Messie qui baptise, qui plonge dans l'Esprit Saint et dans le feu, acte divin de discernement, acte divin de purification, acte divin de jugement aussi. Mais voilà qu'on nous précise que Jésus a lui-même été baptisé dans le baptême de Jean le Baptiste. Rappelons ce que signifiait le baptême de Jean le Baptiste. On l'appelait un baptême de conversion en vue de la rémission des péchés. Les gens étaient plongés entièrement dans les eaux du Jourdain après avoir confessé leurs péchés, reconnu leurs péchés, et à travers cet acte, ils espéraient, ils imploraient la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde était à venir, parce que Jean-Baptiste n'avait pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais il y avait donc à la fois un acte d'humilité et de lucidité, je reconnais mon péché, je lis mon histoire, je reconnais à la lumière certainement de la loi de l'Ancien Testament combien je n'ai pas été fidèle à l'Alliance, je manifeste un regret de cette attitude et je demande au Seigneur de m'accorder la miséricorde. Et comme signe de cette demande, de cette humilité, je suis plongé dans les eaux. Être plongé dans les eaux, c'est à la fois le signe que mon péché induit la mort, c'est le fruit du péché, c'est la mort. Être plongé dans les eaux, c'est le signe du noyé, d'une certaine manière. Et en même temps, sortir des eaux, c'est manifester le désir d'échapper à la mort et le désir d'être lavé de la souillure du péché. Mais voilà que Jésus suit cette même pratique. Alors que Jésus n'a pas de péché personnel, qu'est-ce qu'il fait alors? Est-ce que c'est un simulacre? Pas du tout. Jésus ne fait pas un simulacre, mais il vient, comme le désignera d'ailleurs Jean-Baptiste, comme l'agneau qui porte et qui enlève le péché du monde. Le péché que Jésus confesse, le péché qu'il revêt, ce sont les péchés du monde. Ce sont nos péchés dont le Christ se saisit pour qu'il puisse être enlevé, mais il les prend véritablement sur lui. Il n'en est pas l'auteur de ses péchés, mais il en porte le poids, il s'en charge du poids. Eh bien, cela nous donne quelque chose d'extrêmement précieux sur comment le salut se produit. Le salut ne se produit pas par une force de l'extérieur, une force à distance, une force que l'on pourrait qualifier d'indifférente face à l'histoire des hommes. Le salut ne viendra pas comme quelqu'un qui nettoierait un tableau gribouillé sans se préoccuper de ce qui aurait été écrit sur ce tableau et qui passerait juste un coup d'éponge. Le Seigneur assume l'histoire. Il y a une compassion, donc il y a une intimité de sa personne avec l'histoire des hommes et l'histoire blessée des hommes. Celui qui va nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu revêt dans sa chair le poids et l'opprobre du péché du monde. Alors ces mots peuvent nous sembler très théoriques, mais pour entrer un petit peu dans la réalité que cela désigne, il suffit de nous souvenir de combien c'était désagréable quand, par exemple, nous avons été accusés à tort, quand on a voulu nous faire porter la responsabilité d'un tort qui avait en fait été causé par quelqu'un d'autre. Nous n'aimons pas cela. Nous voudrions au contraire laver notre réputation, dire « mais non, vous ne pouvez pas m'imputer cela, je ne suis pas le coupable ». Et Jésus accepte de porter cette responsabilité alors qu'il n'est pas l'auteur des péchés. Ce n'est pas un acte simple, ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte humiliant, c'est un acte certainement douloureux aussi. Annonce, vous vous en doutez, de la croix sur laquelle il sera crucifié. Le Sauveur n'est pas un sauveur de l'extérieur, le Sauveur sera celui qui a assumé l'histoire des hommes, l'histoire blessée des hommes, qui l'aura vu, qui l'aura goûté personnellement. Sa force ne sera pas là pour éviter le poids de l'histoire, mais pour restaurer l'histoire des hommes, l'histoire de chacun au plus intime. Cette façon de faire de Jésus aura des conséquences pour ses disciples, puisque ses disciples avec lui vont collaborer à cette œuvre où l'on porte et enlève les péchés du monde, eh bien cela signifie que le disciple de Jésus va vivre la compassion vis-à-vis des hommes marqués par le péché. Il ne peut pas se contenter de les regarder à distance, de les regarder de loin. Comme le Christ est affecté par l'histoire des hommes, le disciple de Jésus sera aussi solidaire de cette histoire blessée de l'humanité. Je ne pourrai pas prétendre venir en aide à mon prochain en me désintéressant de son histoire. Je ne peux pas me contenter de te donner du pain simplement si tu as faim. Je dois aussi apprendre à te regarder. Je dois aussi apprendre à te connaître, au moins quelque peu. Goûter quelque chose de ton histoire et ne pas simplement te regarder comme un estomac vide, te réduire à un estomac vide. Notons une autre conséquence. Si Jésus se charge du poids de l'histoire des hommes, du péché des hommes dont il n'est pas directement responsable, ça signifie que dans notre vie spirituelle, nous portons aussi des poids qui ne sont pas directement imputables à nos actes. Il y a des moments dans notre vie où on se dit « Ah ben là là, qu'est-ce que c'est lourd ce que je porte ?» Et puis, je peux réfléchir et me dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Et je dois me souvenir qu'il y a des fois où ça ne vient pas de mes propres actes. Il y a parfois des choses qui viennent de mes propres actes, assurément, mais il y a parfois une collaboration à l'œuvre du Christ qui porte les péchés du monde pour les enlever. Il y a un poids que je peux porter, mais qui est un poids de participation mystique à cette œuvre de Jésus. Il est important de le savoir parce que ça nous permet aussi de sortir parfois d'un sentiment où on va se retourner même contre nous en disant « mais qu'est-ce que je suis mauvais pour avoir toujours ce sentiment d'être écrasé ?» Il y a parfois, dans ma vie justement, un poids qui pèse sur mes épaules et qui est une participation à cette œuvre du salut du Christ qui est allé porter à l'intime le poids de l'histoire des hommes. Lorsque j'en prends conscience, je suis appelé à demander justement la descente de l'Esprit Saint, comme on la voit dans Jésus qui prie après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Jésus a symboliquement pris sur lui les péchés du monde, et l'Esprit Saint vient reposer sur lui. Eh bien, celui qui porte à une partie de ce poids des péchés du monde associé avec Jésus, est appelé à demander que l'Esprit Saint vienne reposer sur lui pour qu'il puisse accomplir cette mission. Et en même temps qu'il demande que l'Esprit Saint vienne reposer sur lui, il implore pour que l'Esprit Saint vienne toucher celui qui est responsable de ce poids. Moi, je porte quelque chose, je demande l'Esprit Saint pour pouvoir le porter, mais je demande aussi que l'Esprit Saint visite celui qui a été responsable de ce poids. Comprenons bien que dans le cadre de cette participation mystique à l'œuvre du Christ qui porte et enlève le péché du monde, je n'ai pas forcément le nom et l'identité de la personne qui était responsable de ce poids que je porte. Mais je peux m'adresser au Seigneur en disant, mais voilà, ce poids qui me vient peut-être de l'extérieur pour participer à l'œuvre du Christ, eh bien Seigneur, que l'Esprit Saint vienne m'aider à le porter, et Esprit Saint va trouver le cœur de celui qui en était responsable, et que ton feu purifie son cœur, et que ta présence puisse lui repermettre de revenir à la droiture. L'Esprit Saint saura où aller, il n'a pas besoin qu'on lui donne un plan ni la carte d'identité de la personne concernée. Mais il a besoin de notre liberté qui s'engage et qui s'engage volontairement à œuvrer avec le Christ. Alors cette participation mystique à l'œuvre du Christ peut nous sembler très éprouvante, peut nous sembler très exigeante. Et c'est pour cela que je voudrais soulever encore un détail du texte et un détail qui est particulièrement consolant. Ce détail, c'est que la voix du Père se fait entendre quand Jésus est sorti des eaux. C'est-à-dire, la voix du Père atteste que Jésus est le Fils, alors même qu'il vient de faire cet acte d'humilité en étant plongé dans les eaux du Jourdain, comme un pécheur. Au moment où Jésus porte le poids de cet acte humiliant, la voix du Père se fait entendre pour attester qu'il est le Fils en qui il trouve toute sa joie. Et nous-mêmes, lorsque nous portons quelque chose du poids des péchés du monde avec le Christ, nous-mêmes nous est partagée cette voix du Père. « Tu es mon Fils, en qui je trouve ma joie. » Voilà que cette parole prononcée pour Jésus est prononcée pour nous, alors que nous nous sentions et que nous étions, ébranlés par ce poids, ébranlés par cette lourdeur, par parfois même cet écrasement. Voilà que la voix du Père nous est adressée. « Tu es mon Fils, en toi je trouve ma joie. » Le Père lui-même se fait notre consolation. Au terme de cet enseignement, retenons cette observation. Le Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Il est allé goûter au poids de l'histoire blessée des hommes. Et cela a des conséquences pour nous, c'est que dans le rapport à notre prochain, nous aussi nous serons appelés à partager le portement de ce poids de l'histoire des hommes, mais concomitamment avec ce portement du poids, le Père nous adresse sa consolation en nous reconnaissant comme ses propres fils. Je vous souhaite de bons échanges.